Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Méninges. Bonjour Pierre. Alors aujourd'hui, tu as décidé de nous parler de ton expérience de non-lecteur. Alors je t'avoue que ça m'étonne un peu parce que je t'ai un peu toujours vu comme un être de lumière, pourvu d'une culture livresque absolument impressionnante, que je te voyais comme un puits de science et de culture capable de me citer dans le texte les plus obscurs philosophes grecs ou allemands. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur le sens de ta démarche ?
Oui, bonjour Othman, bah allons-y. Il y a quelques années, j'ai décidé d'établir la liste des livres que j'avais lus, du moins ceux dont je parvenais à me souvenir. Je m'étais fixé une règle assez simple. Je ne devais mettre dans cette liste que les livres que j'avais lus de la première à la dernière page. Il s'agit en effet de la définition courante de ce qu'on appelle « lire un livre », en avoir parcouru l'intégralité avec les yeux. J'ai très vite été déçu par l'étroitesse de cette liste, et je me suis retrouvé à tricher en y incluant des recueils de poèmes et des pièces de théâtre, y compris celles que j'avais lues de la première à la dernière page sans en avoir le moindre souvenir. Je pense notamment à « Six personnages en quête d'auteur » de Luigi Pirandello, dont je peux simplement vous dire qu'il s'agissait d'une sorte de réflexion poussive sur l'acte de création théâtrale, avec des personnages qui semblaient prendre leur indépendance par rapport aux dramaturges. Je me souviens m'être profondément ennuyé, comme toujours avec le théâtre, et m'être dit que, par conscience estudiantine, il fallait que j'aille au bout du texte. Je pense aussi, dans le domaine du roman, à La jalousie, d'Alain Robbe-Grillet, où il ne se passe globalement rien, comme dans la plupart des livres issus du nouveau roman. Alors je n'aurais pas grand-chose d'intéressant à vous dire sur ces textes. Par contre, je serai en mesure de tenir des discours pertinents et assez précis sur des livres que j'ai simplement parcourus, sans m'être donné la peine d'avoir lu tous les mots qui les composaient. Parmi les exemples les plus éloquents, je peux évoquer La recherche du temps perdu, de Proust, Marcel Proust, dont je n'ai lu qu'une petite partie du premier tome, Un amour de Swann. La relation amoureuse qui se tisse entre Swann et Odette de Crécy, où Proust parvient à nous faire sentir le mécanisme de la jalousie, l'expression « faire Cattleya », le snobisme, la question de la maîtrise et de la non-maîtrise des codes sociaux avec l'exemple des époux Verdurin, la sonate de Vinteuil, la question des réminiscences, etc. Ce sont des thèmes sur lesquels je serais capable de disserter sans vraiment pouvoir me référer à un support textuel véritable puisque je n'ai finalement que très peu lu Proust. En philosophie, plus généralement, je dois avouer que j'ai de petits trous dans ma bibliothèque mentale. J'éviterai de trop m'étaler là-dessus, bien entendu. Mais il m'est peut-être arrivé une fois ou deux d'évoquer des textes ou des auteurs par oui-dire, plus que par connaissance directe. J'ai d'ailleurs un camarade, pendant mes études de philosophie, qui a très très bien réussi ses études et ses concours sans jamais, ou presque, prendre la peine de lire les livres inscrits au programme. C'était un garçon très malin, qui se contentait de recouper des bribes de commentaires issus des cours qu'il suivait et des bribes de discussions qu'il avait avec d'autres étudiants. Je l'ai vu avec admiration préparer l'oral de l'agrégation de philosophie en se contentant pour certaines épreuves de lire avec attention les rapports du jury des années précédentes pour s'imprégner du ton et du type de discours attendu. Un exemple plus précis, nous avions Plotin au programme. Plotin avait écrit 54 traités, 54 traités philosophiques, donc c'est un philosophe antique, et ce camarade, je crois, n'avait lu que 3 traités de Plotin et il a brillamment réussi son épreuve. Voilà, en recomposant à partir de sa bibliothèque mentale ou virtuelle. Alors dans tout ce que je viens de dire, il y a un paradoxe. J'ai de meilleurs souvenirs de textes que je n'ai pas vraiment lus, et je ne peux rien vous dire de pertinent sur des textes auxquels j'ai consacré plusieurs heures. Et toi, Othman, est-ce que tu aurais eu une expérience semblable ? Est-ce qu'il y a des textes sur lesquels tu as passé du temps, mais à propos desquels tu n'aurais rien à dire ?
C'est une question très intéressante et alors mon cas est un peu particulier. Moi, j'ai ce rapport-là avec les romans, c'est-à-dire que j'ai énormément de mal à lire les romans et comme tu disais tout à l'heure, par conscience estudiantine, j'ai dû en lire pas mal. Et il y a des livres que j'ai lus à plusieurs reprises et dont je n'ai absolument aucun souvenir. Je suis incapable de faire même une brève présentation de ces bouquins. Je pense notamment à La condition humaine de Malraux. Aucun souvenir. Je ne saurais même pas te le présenter. Je pense aussi Le Rouge et le Noir de Stendhal. Impossible de, impossible de vous le présenter. Donc oui, c'est totalement quelque chose, une idée dans laquelle je me retrouve, là, ce paradoxe d'avoir lu quelques bouquins en diagonale et d'avoir l'impression de parfaitement les maîtriser, d'avoir vraiment saisi le cœur du discours de l'auteur, et des bouquins que j'ai lus à plusieurs reprises, je suis incapable d'en parler, ne serait-ce que même quelques secondes. Donc oui, tout à fait, ça me parle.
Et ce que je trouve intéressant, c'est que c'est même pas une histoire de bonne ou de mauvaise qualité du livre. Il y a des livres d'excellente qualité, qu'on peut relire et qu'on oublie dans l'instant.
Oui.
Et c'est peut-être parce qu'ils sont extrêmement riches, finalement, qu'on trouve toujours des nouvelles choses, qu'on redécouvre et qu'on oublie, parce qu'il y a une forte densité. Et il y a des livres dont on a des souvenirs parfaits, mais dont on a un souvenir très très négatif, en réalité.
C'est possible. Après, c'est peut-être aussi l'intention qui définit. C'est-à-dire l'obligation de le lire pour les études, c'est pas la même chose que la lecture passion. Comme ouais. On va avoir tendance à pas forcément choisir, dans le cadre d'une lecture passion, des bouquins qu'on va peut-être vite oublier, comme ceux que j'ai cités moi en amont. Mais c'est vrai que les deux bouquins que j'ai cités sont extrêmement denses aussi, et c'est possible qu'on se perde dans le dédale de l'histoire et des personnages. Peut-être ouais. que ça joue.
Et puis moi, je pense aussi au cinéma. Parfois, il y a des chefs-d'œuvre que j'ai dû regarder 5 ou 6 fois, et dont j'ai toujours vraiment aucun souvenir vraiment précis. Je pense notamment à The Big Lebowski, ouais. Frank Cohen, que je trouve génial.
Oui, et absolument génial.
Mais je sais absolument pas ce qui se passe dedans. C'est très paradoxal.
Ah oui, bah alors ça tient au film aussi.
Ouais, c'est possible.
C'est ça aussi. Ouais, non. Oui, ça doit jouer aussi. Peut-être que c'est le même ressort aussi qui compte là-dedans. Peut-être c'est la densité et puis la multiplication d'histoires dans l'histoire qui fait peut-être qu'on a du mal à saisir le propos dans sa globalité. Et du coup, d'en faire un résumé précis.
Ouais, c'est une errance. Un peu comme Sur la route de Jacques Kerouac.
Okay.
Un livre génial sur lequel il n'y a rien à dire, parce qu'il s'agit de suivre l'errance du personnage principal, du narrateur, dont on ne connaît pas vraiment le nom.
Mais c'est globalement très compliqué de pitcher un livre.
Ouais.
C'est vraiment un exercice qui est complexe. Pour les bouquins complexes et denses, c'est extrêmement compliqué.
Ouais. Alors justement, puisqu'on est en train de parler de livres qu'on a lus mais dont on n'a pas de souvenirs, et de livres qu'on n'a pas vraiment lus mais dont on a paradoxalement des souvenirs, j'ai lu il y a quelque temps un texte absolument génial qui parle de ça, qui s'appelle « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?» de l'auteur Pierre Bayard, qui est un professeur d'université, un professeur de littérature, justement. Alors, je précise que c'est un livre que j'ai parcouru en entier il y a environ 17 ans. Mes souvenirs sont donc anciens, mais je pense être en mesure d'en parler avec une relative pertinence.
Excellent exercice pratique, tu penses.
Exactement. Alors, pour nous mettre dans le ton, je vous propose une lecture du drôlatique prologue de cet essai. Donc, « Comment parler des livres que l'on n'a pas lus ?» de Pierre Bayard. Je commence. Né dans un milieu où on lisait peu, ne goûtant guère cette activité et n'ayant de toute manière pas le temps de m'y consacrer, je me suis fréquemment retrouvé, suite à ces concours de circonstances dont la vie est coutumière, dans des situations délicates où j'étais contraint de m'exprimer à propos de livres que je n'avais pas lus. Enseignant la littérature à l'université, je ne peux en effet échapper à l'obligation de commenter des livres que, la plupart du temps, je n'ai pas ouverts. Il est vrai que c'est aussi le cas de la majorité des étudiants qui m'écoutent. Mais il suffit qu'un seul ait eu l'occasion de lire le texte dont je parle pour que mon cours soit affecté et que je risque à tout moment de me trouver dans l'embarras. Par ailleurs, je suis appelé régulièrement à rendre compte de publications dans le cadre de mes livres et de mes articles qui, pour l'essentiel, portent sur ceux des autres. Exercice encore plus difficile, puisque au contraire des interventions orales qui peuvent, sans conséquence, donner lieu à des imprécisions, les commentaires écrits laissent des traces et peuvent être vérifiés. En raison de ces situations devenues pour moi familières, j'ai le sentiment d'être assez bien placé, sinon pour délivrer un véritable enseignement, du moins pour communiquer une expérience approfondie de non-lecteur et engager une réflexion sur ce sujet tabou, réflexion qui demeure souvent impossible en raison du nombre d'interdits qu'elle doit enfreindre. Accepter de communiquer ainsi son expérience ne va pas en effet sans un certain courage, et il n'est pas étonnant que si peu de textes vantent les mérites de la non-lecture. C'est que celle-ci se heurte à toute une série de contraintes intériorisées qui interdisent de prendre de front la question, comme je tenterai de le faire ici. Trois au moins sont déterminantes. La première de ces contraintes pourrait être appelée l'obligation de lire. Nous vivons encore dans une société, en voie de disparition il est vrai, où la lecture demeure l'objet d'une forme de sacralisation. Cette sacralisation se porte de manière privilégiée sur un certain nombre de textes canoniques. La liste varie selon les milieux, qu'il est pratiquement interdit de ne pas avoir lu, sauf à être déconsidéré. La seconde contrainte, proche de la première mais cependant différente, pourrait être appelée l'obligation de tout lire. S'il est mal vu de ne pas lire, il l'est presque autant de lire vite ou de parcourir, et surtout de le dire. Ainsi sera-t-il quasiment impensable pour des universitaires de lettres de reconnaître, ce qui est pourtant le cas de la plupart d'entre eux, qu'ils n'ont fait que feuilleter l'œuvre de Proust sans la lire intégralement. La troisième contrainte concerne le discours tenu sur les livres. Un postulat implicite de notre culture est qu'il est nécessaire d'avoir lu un livre pour en parler avec un peu de précision. Or, d'après mon expérience, il est tout à fait possible de tenir une conversation passionnante à propos d'un livre que l'on n'a pas lu, y compris et peut-être surtout avec quelqu'un qui ne l'a pas lu non plus. Plus encore, comme il apparaîtra au fil de cet essai, il est même parfois souhaitable, pour parler avec justesse d'un livre, de ne pas l'avoir lu en entier, voire de ne pas l'avoir ouvert du tout. Je ne cesserai d'insister en effet sur les risques fréquemment sous-estimés qui s'attachent à la lecture pour celui qui souhaite parler d'un livre, ou mieux encore, en rendre compte. Ce système contraignant d'obligations et d'interdits a pour conséquence de générer une hypocrisie générale sur les livres effectivement lus. Je connais peu de domaines de la vie privée, à l'exception de ceux de l'argent et de la sexualité, pour lesquels il est aussi difficile d'obtenir des informations sûres que pour celui des livres. Dans le milieu des spécialistes, en raison de la triple contrainte que je viens de signaler, le mensonge est général, puisqu'il est à la mesure de l'importance qui occupe le livre. Si j'ai peu lu moi-même, je connais suffisamment certains livres, je pense là aussi à Proust, pour pouvoir évaluer dans les conversations avec mes collègues s'ils disent ou non la vérité quand ils en parlent, et pour savoir que tel est rarement le cas. Mensonge aux autres, mais aussi et sans doute d'abord mensonge à soi, tant il est parfois difficile de reconnaître devant soi-même que l'on n'a pas lu tel livre considéré comme essentiel dans le milieu que l'on fréquente. Et tant est grande, dans ce domaine comme tant d'autres, notre capacité à reconstruire le passé pour le rendre plus conforme à nos voeux. Ce mensonge général qui s'instaure dès que l'on parle de livres est l'autre face du tabou qui pèse sur la non-lecture et du réseau d'angoisse, sans doute venu de notre enfance, qui le sous-tendent. Aussi est-il impossible d'espérer se sortir indemne de ce genre de situation sans analyser la culpabilité inconsciente que suscite l'aveu de n'avoir pas lu certains livres. Et c'est à la soulager au moins partiellement que cet essai voudrait s'attacher.
Ok, super, très éclairant. Et est-ce que Pierre Bayard nous fournit une méthode pour justement parler des livres qu'on n'a pas lus ?
Alors Pierre Bayard ne nous fournit pas, bien entendu, une méthode ou un système pour tenir un discours de vérité sur des livres qu'on n'aurait jamais parcourus ou fréquentés. Il ne s'agit pas pour lui de nous apprendre à parler de n'importe quel sujet ou de n'importe quel livre avec un air important ou inspiré. Les professeurs de philosophie le font déjà très bien, et les philosophes français en général. Il s'agit plutôt de nous décomplexer au sujet de la lecture et de la non-lecture, et de comprendre que les frontières entre ces deux états sont beaucoup plus mouvantes qu'on ne l'imagine. L'auteur propose ainsi quatre conseils à suivre pour parler des livres qu'on n'a pas lus. Alors, le premier conseil, c'est de ne pas avoir honte. À ce sujet, Pierre Bayard évoque un excellent roman d'un excellent auteur anglais. Il s'agit d'un roman qui s'appelle « Changement de décor » écrit par David Lodge. David Lodge, c'est un écrivain qui met en scène des universitaires anglo-saxons dans le domaine des lettres et des sciences humaines. C'est toujours extrêmement drôle. Dans « Changement de décor », un professeur anglais, Philip Swallow, propose de jouer au jeu de l'humiliation. On peut appeler ça aussi parfois le jeu de la honte. Chaque participant à ce jeu doit donner le titre d'un ouvrage célèbre qu'il n'a jamais lu. S'il est le seul à ne pas avoir lu cet ouvrage parmi les joueurs, il marque un point. Le paradoxe est donc qu'il faut dévoiler le plus grand nombre possible de trous béants dans sa bibliothèque personnelle pour gagner. Alors l'un des personnages, Howard Ringbaum, ne supporte jamais de perdre, même à ce type de jeu. En tant que professeur de littérature anglaise, il décide de frapper un grand coup en avouant qu'il n'a jamais lu Hamlet de Shakespeare. Alors la rumeur se répand à la fin du jeu que ce professeur reconnu n'a pas lu l'un des classiques de la littérature anglo-saxonne. Et cela lui coûte, 3 jours plus tard, un poste qu'il souhaitait obtenir. Alors imaginez un peu un professeur de français qui vous avouerait qu'il n'a jamais vraiment lu Madame Bovary de Gustave Flaubert ou Les Fleurs du Mal de Baudelaire. Vous auriez du mal à le prendre au sérieux. Alors ce que la mésaventure d'Howard Ringbaum fait comprendre, c'est que l'espace de communication sur les livres se nourrit d'une marge d'ambiguïté, d'ignorance. Lorsque nous parlons de livres, ou d'objets culturels plus généralement, comme des films, nous obéissons à des règles du jeu implicites, des règles que nous connaissons tous et que nous ne devons pas mettre au jour, sans quoi nous mettons fin au jeu. Effectivement, on parle toujours de beaucoup de choses sans vraiment les connaître finement ou sans vraiment les connaître de manière complète et exhaustive. Alors parmi les règles implicites, il y a le fait qu'il est possible et admissible, légitime, de parler d'œuvres qu'on ne connaît pas vraiment ou qu'on a lues qu'il y a très très longtemps. Donc si vous voulez parler d'un livre que vous n'avez pas lu, n'ayez pas honte, vous dit Pierre Bayard. C'est d'ailleurs son premier conseil. Je reprends ainsi les mots de l'auteur. Je cite « Aussi conviendrait-il, pour parvenir à parler sans honte des livres non lus, de nous délivrer de l'image oppressante d'une culture sans faille, transmise et imposée par la famille et les institutions scolaires, image avec laquelle nous essayons en vain, toute notre vie, de venir coïncider. Car la vérité destinée aux autres importe moins que la vérité de soi, accessible seulement à celui qui se libère de l'exigence contraignante de paraître cultivé, qui nous tyrannise intérieurement et nous empêche d'être nous-mêmes. » Alors toi, Hautmann, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Est-ce que, enfin, quel serait ton rapport à la lecture et à la non-lecture?
Je comprends totalement son idée de lutter contre la honte et aussi l'obligation de paraître cultivé, parce que moi-même je viens d'une famille de grands lecteurs. Et comme j'expliquais tout à l'heure, moi j'ai toujours eu des soucis à lire des romans. Et donc pendant très longtemps, je me sentais un peu en décalage par rapport justement, comme il dit, avec la famille, par rapport à ça. J'entendais mon frangin parler avec ma mère des grands classiques de la littérature. Et donc ça m'a permis déjà de forger une espèce de culture parallèle. C'est-à-dire je retenais des bribes de discussion et j'étais un peu déjà capable de parler de bouquins que j'avais jamais lus, que j'avais jamais ouverts, parce que j'avais entendu ma famille en parler. Et puis c'est vraiment, c'était tellement handicapant que j'étais persuadé de ne pas aimer la lecture. Et le déclic se fera après à l'adolescence, quand je découvre les essais, quand je commence à lire des essais aussi bien historiques que de la philo. C'est à partir de là que je me dis, en fait, c'était plus j'ai plus de problèmes avec la fiction. C'est ça que mon blocage venait de là. Mais après, donc c'est vraiment, je vois ce dont il parle, de cette espèce de handicap social, de ne pas connaître les grands classiques de la littérature. Donc ouais. Je vois totalement à quoi ça correspond.
Alors ce qu'il dirait en fait, Pierre Bayard, c'est qu'en fait, tu avais déjà une bibliothèque mentale bien fournie, à force de capter des bribes de conversation.
Ouais.
Et t'as peut-être jamais lu Proust.
Non.
Comme moi. Mais je pense que t'es aussi capable d'en parler, tout comme t'es capable de parler d'un certain nombre de grands auteurs de différentes traditions. Parce que tu sais qu'à chaque auteur, il y a un thème qui est attaché, il y a une tonalité, il y a un style, etc.
Ouais.
Et Pierre Bayard dit finalement que c'est ça, les frontières entre lecture et non-lecture sont très floues. Et il y a plein de choses qu'on connaît comme si on les avait lues, finement.
C'est ça.
C'est ça qui est fascinant. Et
par le biais de la culture générale, un truc qui serait de la culture générale, t'as pas besoin d'avoir un rapport direct au livre pour le connaître.
Oui. Et j'invite d'ailleurs les personnes qui se croient cultivées ou qui se sentent très cultivées à faire la liste objective des livres qu'ils ont lus. Ils verront que c'est une liste qui est finalement assez, assez maigre et assez fine. Alors je me souviens que dans ma liste, j'avais mis la fonction de recherche pour voir quels étaient les livres de Balzac que j'avais lus.
Ouais.
J'ai lu aucun livre de Balzac, par exemple. Alors j'avais failli tricher en mettant que j'avais lu le Lys dans la vallée.
Ouais.
Mais en réalité, j'en ai lu 30 pages et j'ai arrêté très vite. Alors je me souviens d'une scène de flirt sous une tonnelle. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens. C'est pareil, les pièces de Shakespeare, je crois que j'ai lu des pièces de Shakespeare pour m'être dit que j'avais lu des pièces de Shakespeare. Je me souviens que j'avais lu la Tempête, et j'en ai absolument aucun souvenir non plus. Donc c'est ça qui est intéressant. La bibliothèque mentale, en fait, c'est tous ces éléments livresques qu'on réussit à rattacher à une sorte de réseau de signification. Et oui, l'idée de les avoir parcourus intégralement ou non, elle importe finalement peu. Et il a aussi cette idée que la littérature, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est un champ de rencontre entre des subjectivités. C'est ça parler de littérature, c'est pas confronter des lectures très précises et très universitaires de textes, c'est simplement parler, et on va voir que parler c'est parler de soi, et entrer en résonance aussi avec des textes ou avec des émotions d'autrui. La littérature en fait c'est un espace du discours, quoi. Alors, c'est peut-être très vague, mais je pense que ça parle beaucoup aux gens qui lisent beaucoup, et qui ont justement cette culture littéraire.
Puis nous on s'en rend bien compte en préparant les podcasts aussi, il y a des livres qu'on lit en prenant des notes. Et pour ainsi dire, trois semaines après, on se souvient simplement de deux, trois concepts fondamentaux, mais le bouquin faisait 300 pages et on se souvient absolument pas de tout le reste. Il y a deux, trois concepts qui nous ont marqués, qu'on retient, et pourtant on l'a lu attentivement, on l'a préparé, on l'a fait en podcast, on a pris des notes, et pourtant on oublie.
Ouais.
Donc autant vous dire que les romans qu'on a lus sans prendre de notes, sans vraiment être concentré, disons entre guillemets, par lecture plaisir, Il y a quand même de très fortes chances qu'on s'en souvienne pas 10 ans après.
Ouais, exactement. Alors, le deuxième conseil donné par Pierre Bayard, c'est d'imposer ses idées. Pourquoi ? Parce que la matière littéraire, c'est une matière plastique, malléable. Le livre, ce n'est pas une réalité figée, univoque, une réalité matérielle. Et l'auteur parle ainsi de la remarquable plasticité de la bibliothèque virtuelle. Alors, cette bibliothèque virtuelle, elle représente l'ensemble des livres qui forment ce qu'on appelle la culture littéraire. On a tous une bibliothèque virtuelle en nous. Toi, tu as une bibliothèque virtuelle assez complète et assez fournie, du fait justement de cet espace intersubjectif dans lequel tu étais, c'était la discussion littéraire, dont tu as capté plein de bribes. En ce sens, nous dit l'auteur, il ne faut pas avoir de scrupules à avancer des idées, y compris et peut-être surtout sur les textes qu'on n'a pas lus. L'auteur s'amuse ici à aller au bout du paradoxe, comme dans le troisième conseil pour celui qui souhaite parler de livres qu'il n'a pas lus. Le troisième conseil, donc, c'est d'inventer les livres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, inventer les livres ? Eh bien, puisque les livres ne sont qu'une sorte d'espace virtuel, où se rencontrent les sensibilités et les subjectivités, et non pas simplement des feuilles reliées, eh bien, il n'est pas honteux ou scandaleux d'y mêler une part d'invention personnelle, lorsqu'on en parle. C'est ce que nous faisons déjà tous plus ou moins en famille, lorsque nous alimentons le roman familial d'histoires à demi inventées ou réarrangées. Il en va de même lorsqu'on parle d'un livre, d'un poème, d'un roman ou d'une œuvre philosophique. Alors je pense notamment au commentaire en philosophie qu'Alexandre Kojève a fait de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Un texte, à mon avis, que peu ont lu du début jusqu'à la fin. Alors le commentaire d'Alexandre Kojève, d'un point de vue universitaire, n'a que peu de valeur. C'est Kojève qui parle, en utilisant Hegel comme le ferait un ventriloque en utilisant une peluche, à tel point que l'on parle parfois du Hegel de Kojève. Eh bien, on retrouve cette invention ou une invention de Kojève dans de nombreux manuels de philosophie à travers la fameuse et très contestable dialectique du maître et de l'esclave. Voilà, beaucoup d'élèves ont entendu parler de cette dialectique du maître et de l'esclave. Elle a en fait été mise au jour par Kojève, qui croit l'avoir chez Hegel. Mais en réalité, il n'y a pas vraiment de dialectique du maître et de l'esclave chez Hegel, et le passage évoqué par Kojève n'a pas exactement le sens qu'il lui donne. Mais disons qu'à travers cette non-lecture, il y a une invention très intéressante qui a été faite et qui fait partie désormais du patrimoine philosophique français. On pourrait le dire comme ça. Donc un auteur qui a su imposer ses idées, qui a su inventer justement un livre qu'il n'avait peut-être lu que par bribes, qu'en partie, ou dont il n'avait que des lointains souvenirs. Et au fond, tout ça n'est pas très grave, dit Pierre Bayard. La lecture, c'est un espace de liberté, un espace d'invention, mais aussi un espace de découverte de soi. D'où le quatrième conseil de l'auteur, parler de soi. Toute lecture est une rencontre entre un texte, qui est un tissu de potentialité, et un lecteur, qui est un tissu d'affect, lié à une biographie. En ce sens, il n'y a rien d'anormal à coudre ensemble ces deux tissus, à faire du livre une sorte de miroir qui nous serait tendu. Et dès lors, toute lecture, c'est une rencontre avec soi-même, avec la part de fantasme, de singularité, d'originalité que cela implique. Lire, conclut Pierre Bayard, c'est devenir soi-même créateur. Et j'en sais quelque chose, puisque je vous avoue que je n'ai pas méthodiquement relu l'essai dont je viens de vous parler, et que je l'avais parcouru la première fois de manière un peu rapide lorsque j'étais en classe d'hypocagne. Je crois que c'était en 2006-2007.
Est-ce que on peut dire que dans cet épisode, tu as voulu rendre hommage à Pierre Bayard ?
Tout à fait, effectivement, c'est très méta, comme disent certains. Et l'auteur résume très bien ce que je viens de dire dans les dernières pages de son essai, lorsqu'il dit qu'il s'agirait de devenir soi-même créateur. Alors, je vais vous lire ce très beau passage de Pierre Bayard. Donc, lire des livres, au fond, c'est un acte de création, un acte d'invention. Devenir soi-même créateur, c'est bien à ce projet que conduit l'ensemble des constatations faites ici à partir de cette série d'exemples. Un projet accessible à ceux dont le cheminement intérieur les a libérés de tout sentiment de faute. Car parler de livres non lus est une véritable activité de création, aussi digne, même si elle est plus discrète, que des activités plus reconnues socialement. L'attention portée aux pratiques artistiques traditionnelles a en effet pour conséquence de négliger, voire de méconnaître des pratiques moins valorisées, parce qu'elles s'exercent par nature dans une forme de clandestinité. Comment nier pourtant que parler de livres non lus constitue une authentique activité créatrice, faisant appel aux mêmes exigences que les autres arts? Il suffit pour s'en convaincre de penser à toutes les capacités qu'elle mobilise, comme celle d'écouter les virtualités de l'œuvre, d'analyser le nouveau contexte où elle vient s'inscrire, de prêter attention aux autres et à leurs réactions, ou encore de conduire une narration prenante. Mais ce devenir créateur ne concerne pas seulement le discours sur les livres non lus. À un degré supérieur, c'est la création elle-même, quel qu'en soit l'objet, qui implique un certain détachement des livres. Car comme le montre bien Oscar Wilde, il existe une forme d'antinomie entre lecture et création. Tout lecteur courant le risque, perdu dans le livre d'un autre, de s'éloigner de son univers personnel. Et si le commentaire sur les livres non lus est une forme de création, la création, à l'inverse, implique de ne pas trop s'attarder sur les livres. Devenir soi-même le créateur d'œuvres personnelles constitue donc le prolongement logique et souhaitable de l'apprentissage du discours sur les livres non lus. Cette création marque un pas de plus dans la conquête de soi et dans la libération du poids de la culture, laquelle est souvent, pour ceux qui n'ont pas été formés à la maîtriser, empêchement à être et donc à donner la vie à des œuvres. Si apprendre à parler des livres non lus est une première forme de rencontre avec les exigences de la création, une responsabilité particulière pèse alors sur tous ceux qui enseignent, celle de mettre en valeur cette pratique, qu'ils sont, de par leur expérience personnelle, les mieux placés pour transmettre. Or, si nos étudiants sont initiés pendant leur scolarité à l'art de lire, voire à celui de parler des livres, celui de s'exprimer à propos des livres non lus est singulièrement absent des programmes, comme s'il n'était jamais mis en cause le postulat selon lequel il est nécessaire d'avoir lu un livre pour en parler. Comment alors s'étonner de leur désarroi quand ils sont interrogés lors d'un examen sur un livre qu'ils ne « connaissent pas » entre guillemets, et se révèlent incapables de trouver en eux-mêmes les ressources pour s'exprimer? C'est que nos étudiants ne se donnent pas le droit, l'enseignement ne jouant pas pleinement le rôle de désacralisation qui devrait être le sien, d'inventer les livres. Paralysés par le respect dû au texte et l'interdit de les modifier, contraints de les apprendre par cœur ou de savoir ce qu'ils contiennent entre guillemets, trop d'étudiants perdent leur capacité intérieure d'évasion et s'interdisent de faire appel à leur imagination dans des circonstances où celle-ci leur serait pourtant le plus utile. Leur montrer qu'un livre se réinvente à chaque lecture, c'est leur donner les moyens de se sortir sans dommage et même avec profit d'une multitude de situations difficiles. Car savoir parler avec finesse de ce que l'on ne connaît pas vaut bien au-delà de l'univers des livres. L'ensemble de la culture s'ouvre à ceux qui témoignent de leur capacité, illustrée par de nombreux écrivains, à couper les liens entre le discours et son objet, et à parler de soi. C'est surtout les ouvrir à l'essentiel, à savoir le monde de la création. Quel plus beau présent peut-on faire à un étudiant que de le sensibiliser aux arts de l'invention, c'est-à-dire de l'invention de soi? Tout enseignement devrait tendre à aider ceux qui le reçoivent à acquérir suffisamment de liberté par rapport aux œuvres pour devenir eux-mêmes des écrivains ou des artistes. Pour toutes les raisons évoquées dans cet essai, je continuerai donc pour ma part, sans me laisser détourner de ma voix par les critiques, à parler avec autant de constance et de sérénité des livres que je n'ai pas lus. J'aurai le sentiment, si je procédais autrement et rejoignais la foule des lecteurs passifs, de me trahir moi-même en étant infidèle au milieu d'où je viens, au chemin qu'il m'a fallu parcourir parmi les livres pour parvenir à créer, et au devoir que je ressens aujourd'hui d'en aider d'autres à vaincre leur peur de la culture et à oser se détacher d'elle pour commencer à écrire. C'est très beau.
Ouais, c'est très intéressant. Ça me fait penser aux livres qu'on lisait quand on était petit. Tu sais, les livres dont vous êtes le héros. C'est toi qui choisis le déroulé de l'histoire entre plusieurs options. Ça fait penser un peu à ça quand il dit que parler d'un livre, finalement, c'est parler de soi.
Ouais.
Voilà. Donc c'était très intéressant. C'était nouveau. Je connaissais pas, mais merci beaucoup pour cette découverte, Pierre.
Bah, plus généralement, lisez tous les livres de Pierre Bayard qui sont toujours exceptionnellement drôles. Il a développé des notions très paradoxales, notamment celle de plagiat par anticipation. Très intéressante que certains auteurs auraient plagié d'autres par anticipation. Il a aussi écrit des livres dans lesquels il pense que le dénouement d'une intrigue policière n'est pas le bon, que c'est l'auteur lui-même qui s'est trompé sur le vrai criminel. Voilà, c'est toujours très original et très bien mené. C'est un grand lecteur, justement, qui se révèle en plus être un très grand non-lecteur. Voilà.
Et ben une bien belle découverte. Merci beaucoup, Pierre.
T'en prie.
Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.